Polysécure, épisode spécial, je suis accompagné d'Emeline. Comment vas-tu?
Je vais très bien. Et toi?
Ça vient aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé à travers un micro.
C'est vrai. Donc, épisode spécial avec quelqu'un de spécial.
C'est un événement remarquable. Disons ça comme ça. Tu m'as proposé des sujets, puis celui qui m'a le plus accroché, du moins pour commencer, c'est les biais cognitifs. Parce qu'en cybersécurité, on oublie souvent l'humain, et l'humain vit dans un environnement où il y a des biais cognitifs qui nous amènent à poser des actions qui souvent, aux yeux de la cybersécurité, sont des erreurs ou des problèmes. Donc, ce que tu nous proposes, c'est de nous expliquer un peu ces biais-là dans des grandes familles qui nous permettent justement de repérer facilement et nous guider à travers ça. Fait que je te laisse commencer.
Absolument, puis c'était plus simple de le catégoriser par grande famille de biais cognitifs que d'y aller pêle-mêle de cette façon-là. Et puis tu l'as abordé rapidement en parlant de l'humain, c'est qu'en cybersécurité, le problème, c'est pas que les gens sont naïfs, qu'ils sont bêtes, qu'ils sont stupides. Le problème, c'est que les fraudeurs, ils savent très bien comment fonctionne notre cerveau. Et on peut avoir de bonnes connaissances, on peut être prudent, on peut travailler dans une organisation qui est bien protégée côté technologie et quand même se faire prendre. Et pourquoi? Parce que les attaques, elles jouent souvent sur nos réflexes humains, sur l'urgence, la peur, la confiance. On va le voir, l'habitude, la fatigue aussi, l'autorité. Et quand on parle de cybersécurité, on pense souvent encore aux mots de passe, aux antivirus, aux mises à jour, et on oublie parfois un élément central qui est notre cerveau. Et les cybercriminels, ils cherchent pas toujours à pirater une machine. Très souvent, en fait, ils cherchent plutôt à influencer une personne. Ils veulent nous faire agir sans réfléchir. Ils veulent qu'on clique avant de vérifier, qu'on fasse confiance avant de questionner. Donc, un biais cognitif. Et je rentre rapidement dans la thématique ensuite. C'est pas un défaut d'intelligence, c'est vraiment un raccourci mental. Notre cerveau, il utilise des biais pour aller plus vite, surtout quand on est pressé, fatigué, stressé, distrait. Et le problème, c'est que ces raccourcis, ils peuvent être exploités. Donc, dans les grandes lignes,
oui,
c'est
ça. Je vais intervenir, puis je trouve ça important parce que ta définition, elle dit effectivement, c'est pas parce qu'on n'est pas bon qu'on va tomber dans ces pièges-là, puis effectivement, c'est les mécaniques du cerveau. Et l'exemple que je donne régulièrement, parce que tu sais, on semble que les gens en cybersécurité sont immunisés contre ce genre de problème-là, la réponse est non. On tombe aussi dans ces pièges-là parce qu'on est aussi humain que les autres. Et c'est une belle démonstration que la connaissance, même si elle est très élevée, n'est pas un outil super fort pour se défendre contre ces biais-là. Et c'est un entraînement particulier, un regard et une attention particulière qu'on doit y faire. Et justement, nous amener dans cette direction-là et ne pas penser qu'on est moins bon que les autres parce qu'on s'est fait prendre. On se fait tous prendre, moins inclus.
Et puis les biais, ils ne concernent pas seulement les employés dans le cadre du travail aussi. C'est les mêmes réflexes dans notre vie personnelle. Justement, on en parlait en off, que ce soit les colis, nos comptes bancaires, nos réseaux sociaux, nos courriels, nos familles. Ça nous concerne aussi en tant qu'individu. Donc, si tu me le permets, pour rendre ça plus concret, je les regroupe, ces biais cognitifs, puis il n'y a pas que ceux que je vais nommer aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres, mais je les ai rassemblés en quatre grandes familles. D'abord, on va regarder les biais qui nous font agir vite, qui nous font agir trop vite, ceux qui nous font trop faire confiance, ceux qui nous font baisser notre garde, et ceux qui nous enferment dans nos habitudes. Justement, j'aime beaucoup cette notion d'habitude. Et donc, on va regarder tout ça. Donc, numéro un, les biais qui nous font agir trop vite, c'est vraiment, comme je les ai nommés, finalement, ça nous pousse à agir sans réfléchir, avant de réfléchir. Les fraudeurs, ils vont et ils veulent réduire l'espace entre l'émotion et l'action. Parce que plus les deux sont rapprochés, moins on fait de vérification. Ils veulent qu'on clique, ils veulent qu'on paye, ils veulent qu'on réponde, qu'on se connecte tout de suite. Donc d'abord, le premier, c'est le biais d'urgence. Et c'est probablement le plus facile à comprendre, c'est le fait que le fraudeur, il va créer une pression. Votre compte sera bloqué, votre paiement sera refusé, la livraison est suspendue. Donc on voit un petit peu le côté où est-ce que on sent le stress, les mains moites, le cœur qui palpite un petit peu plus vite. Donc, on est en plein dans l'urgence. Et le but, c'est de réduire le temps, une fois de plus, entre l'émotion qui est vécue et l'action. Et tu vas probablement vouloir compléter par rapport à ça, mais l'urgence, c'est une arme très efficace parce qu'elle nous enlève notre réflexe de validation. Quand on a peur de perdre l'accès à un compte bancaire, quand on a peur de manquer une livraison, on veut régler le problème rapidement. Et c'est justement ce sur quoi les fraudeurs misent, qu'on règle le faux problème avant de se demander s'il existe pour vrai ce problème-là. Et la rareté fonctionne de la même façon, mais je vais te laisser intervenir avant de parler de rareté aussi.
Ouais, ben, l'urgence est probablement le plus efficace. On le voit souvent dans les fraudes téléphoniques, notamment. Elle nous amène le fait que un corps de police indéfini nous appelle, ils vont arriver chez nous si on n'intervient pas rapidement, si on n'agit pas rapidement, fait qu'il joue sur la peur, le fait qu'on a peut-être commis une faute et de fait que si on la corrige pas rapidement, ben on va avoir des conséquences perçues qui sont dans les faits inexactes, mais qui nous amènent à aller dans le geste. Puis il y en a de plus en plus, puis ça c'est fort, fort étonnant, ça l'avance. Il y a quelques années, la classique, genre la police ou les impôts vont venir vous saisir toute votre maison parce que vous n'avez pas payé, ce qui est complètement faux. Les choses, les modèles plus récents sont même plus subtils dans le sens où ils vont appeler l'urgence, mais avec une petite musique de Noël en arrière-plan qui vient jouer sur deux plans en même temps, sur l'urgence, mais en même temps, en nous descendant la garde, qui est un autre de tes grands groupes, mais il s'est rendu qu'il mélange les deux. En tout cas, bref, je te laisse continuer.
Et en fait, tu marques un point, c'est que souvent, il y a plusieurs biais cognitifs qui vont être utilisés, qui vont être mélangés, justement, comme tu l'as dit, pour rendre ça encore plus crédible, puis te dire, bon, bah, si ça appuie pas à cet endroit-là pour cette personne, ça appuiera à tel autre endroit, parce que on réagit tous différemment, on a juste tous des moments de vulnérabilité différents aussi dans nos vies, donc 100% d'accord. Et justement, je disais juste avant, la rareté va fonctionner de la même façon que l'urgence. Et si on prend l'exemple de offre valable aujourd'hui seulement, dernière place disponible, ben, le but, encore une fois, c'est de créer une pression assez grande pour qu'on agisse avant de réfléchir, tout simplement.
Oui, puis celle-là, elle est très drôle pour ceux qui flottent un peu dans Facebook, Instagram, dans ces environnements-là, dans un contexte de vente. Là, on parle de cybersécurité, c'est une chose, mais la vente aussi utilise énormément comme ça. C'est une des pressions de vente qui est largement utilisée. Si vous n'allez pas, vous avez un rabais de 50% si vous ne vous dépêchez pas. Et la façon de tester à quel point c'est fait pour ça, attendez le délai. Ils vont vous recommuniquer de toute façon parce qu'ils ne sont pas si pressés que ça. Et ce n'est vraiment qu'une technique de vente un peu croche, malheureusement, et qui, moi, m'a désensibilisé énormément. En passant, j'ai ressenti une énorme indifférence. Fait que je pense que la surutilisation par les commerçants de celle-ci, pour moi, j'ai juste plus d'urgence de rareté, en tout cas pas pour le moment. Et en cyber, ça a eu cet effet-là, mais il faut effectivement faire être très vigilant du côté cyber également.
Et puis, je vais ailleurs, mais on a entendu beaucoup parler dans les dernières années de FOMO, du Fear of Missing Out. Et puis, de plus en plus, il y a le JOMO, donc le joy, la joie de manquer des choses. Puis, ça fait un lien beaucoup avec ce que tu dis. Et c'est pour ça que j'ai souvent les fraudeurs sont très bons en marketing, parce qu'effectivement, c'est des concepts de marketing qui fonctionnent très bien quand c'est des choses que tu vas recevoir pour vrai chez toi quand tu le commandes, ce qui n'est pas le cas avec les fraudeurs. Mais ouais, bien, bien d'accord. Ensuite, biais cognitif suivant, le biais de confirmation, qui est aussi très très vrai dans plein d'autres choses de nos vies. D'ailleurs, là, moi, je les ai transposés à la cybersécurité, mais c'est vrai dans plein plein d'autres choses. Mais le biais de confirmation, c'est notre tendance à croire plus facilement une information qui correspond à ce qu'on attend déjà. Donc, si j'attends un colis, j'attends un texto de livraison, ben un faux texto de livraison devient beaucoup plus crédible à ce moment-là. Si je viens de faire une demande de remboursement, ben un faux message de remboursement paraîtra complètement logique. Donc, c'est pour ça qu'on dit en période d'impôt aux gens de faire attention, parce qu'un faux message de l'ARC, de Revenu Québec, ben il tombe comme au bon moment. Si je peux donner un exemple un petit peu plus détaillé pour les gens qui nous écoutent, imaginez, vous avez commandé quelque chose en ligne. Deux jours plus tard, on reçoit, tu sais, le fameux texto, votre colis est en attente. Et là, il y a des frais de douane. Des frais de douane, c'est 2,48. Ça doit être payé aujourd'hui pour éviter que ce soit retourné à l'expéditeur. Ben, ce message active, comme on le disait, plusieurs biais en même temps. D'abord, le biais de confirmation parce que j'attends réellement un colis pour vrai. Ensuite, le biais de l'urgence parce qu'on nous dit que si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera renvoyé. Et finalement, un autre truc qu'on parlera un petit peu plus tard, le biais de faible risque. 2,48, c'était mon exemple que j'ai donné, 2,48 $, c'est pas grand-chose. Donc, on se dit que c'est pas grave. Mais le vrai objectif, c'est pas de voler 2,48. Le vrai objectif, c'est souvent de nous amener à une fausse page web pour voler des informations de carte bancaire, des identifiants par exemple. Et dans une fraude, le petit montant va servir parfois à juste rendre la demande crédible. C'est pas le montant qui compte, c'est vraiment la porte qu'on ouvre finalement.
Absolument. Puis celle-là, elle est pour moi la plus difficile à repérer, puisque là, tu donnes des exemples de colis, par exemple, qui sont les plus courants. Pendant le confinement, c'était Amazon. On savait beaucoup de communications qui simulaient Amazon parce qu'il était présumé que la plupart des gens commandaient de façon massive sur Amazon à cette époque-là. Donc, c'était facile de tomber, de attraper quelqu'un par inadvertance, de cliquer sur les choses comme ça. Ça se continue maintenant et c'est encore plus trash parce que ils sont rendus encore meilleurs qu'ils l'étaient à l'époque et c'est dans un flot plus subtil par rapport à des événements qui on est moins vigilant et de cliquer dessus c'est beaucoup plus facile et beaucoup pas vraiment par inadvertance et c'est le type d'erreur dans lequel il m'est arrivé de tomber parce que le timing entre le message est ce que j'attendais vraiment. Il y a eu un hasard qui a fait qu'ils sont arrivés au même moment. Et en même temps, ce qui est traître pour les gens, c'est qu'ils donnent l'impression que ils étaient ciblés. La réalité, non, on n'est pas ciblé parce qu'on en voit beaucoup, beaucoup. Et quand on est réceptif, on le voit. Quand on n'est pas réceptif, on les voit juste pas passer à ce moment-là parce qu'on n'est pas attentif à cette petite fenêtre-là. Et pour comprendre comment les attaquants fonctionnent, c'est qu'ils envoient des masses très importantes. Puis s'ils ont 1% des gens qui envoient, c'est suffisant pour être rentable pour les opérations malveillantes qu'ils ont.
Non, absolument, absolument. Et puis, je pense que si tout le monde est très honnête avec soi-même, on a tous des exemples justement où est-ce qu'on a reçu une communication et qui est arrivée pile au bon moment, le momentum était parfait et pourtant, on se rend compte que c'était frauduleux à la fin. Puis, en fait, pour chaque famille de biais, je vais donner quelques petits réflexes clés que je trouve et que tu pourras compléter. Mais pour cette famille-là, de ceux qui nous font réagir trop vite, mais c'est chaque fois qu'un message exige une action immédiate, on devrait faire l'inverse en fait. On devrait ralentir, on devrait fermer le message, aller soi-même sur le site officiel ou dans l'application. Jamais utiliser le lien qui est fourni dans le message. Ça serait les meilleures recommandations de tout ce qui touche l'urgence finalement.
Absolument, de prendre un moment, prendre un respect. Puis ça, c'est une des pratiques qui est souvent recommandée. Quand il y a une urgence, prendre un respect, juste le prendre une grande respiration, le délai et le fait de s'oxygéner viennent nous donner un petit coup de vigilance. Puis généralement, on est capable de détecter ensuite si effectivement c'est une réelle urgence, ça arrive, ou ça n'en est pas une. Mais en même temps, les criminels n'utilisent pas des urgences qui sont généralement des vraies urgences, qui sont relativement faciles à repérer. Les vraies urgences sont aussi effectivement très faciles à repérer, puis il n'y en a pas tant que ça dans nos vies.
Non, exact. Puis, tu sais, je dis souvent en blague que je souffre de saine paranoïa. Puis il y a des gens qui me demandent, mais t'as pas peur de passer à côté d'une communication importante? Comme si c'est vraiment important, ils vont trouver un autre moyen pour communiquer avec moi. Donc, ça nous rassure. De cette façon-là.
Tout à fait. Puis, si on prend l'exemple du fait qu'ils nous appellent, que si les impôts, on n'appelle pas, les impôts vont venir. Inquiétez-vous pas, les impôts ont beaucoup de moyens très efficaces pour venir rentrer en communication avec vous autres, quitte à vous aller chez vous, mais c'est rare qu'ils commencent par tout saisir. Généralement, c'est le dernier recours, c'est pas le premier. Et vous allez avoir la visite de quelqu'un bien avant chez vous, puis qui va vous parler, gentiment, heureusement, pour vous amener dans cette situation-là si vous avez été négligent moindrement avec vos dossiers fiscaux.
Et oui. La deuxième famille que je vais aborder avec les personnes qui nous écoutent, c'est les biais qui nous font accorder trop de confiance trop vite. Ici, le fraudeur, il mise pas seulement sur la peur. Souvent, il va miser là-dessus aussi, mais il va rajouter une petite couche. Il va miser sur la crédibilité apparente à un nom connu, une personne importante, un fournisseur habituel. Donc, c'est un peu l'idée. Le premier biais cognitif en lien avec ça, c'est forcément le biais d'autorité. C'est vraiment notre tendance à donner plus de poids à une demande quand elle semble venir d'une personne ou d'une organisation en position d'autorité. Et dans la vraie vie, c'est utile. C'est utile. On écoute notre médecin, on écoute notre employeur, on écoute l'institution financière. Donc, mais en ligne, le réflexe, il peut devenir dangereux parce que l'identité, elle peut être imitée. La personne obéit parce que la demande semble venir d'une autorité, comme justement tu parlais des impôts, Hydro-Québec, la CNESST, un fournisseur, mais on ne parle pas à la personne qu'on pense finalement. Exemple concret, plus organisation, pour celui-ci, je reçois un courriel qui semble venir du président de l'organisation. C'est une bonne vieille fraude au président. Je suis en réunion, c'est urgent, tu peux acheter des cartes cadeaux, m'envoyer les codes. C'est, la demande, elle est étrange à la base, mais comme elle semble provenir d'une personne importante qu'on connaît, ben on hésite à poser des questions. On veut pas avoir l'air de ralentir le dossier ou de manquer de jugement. Donc, c'est un élément important et le réflexe, c'est que justement, plus la personne semble importante, plus la demande, elle doit être validée, finalement. Parce que, comme tu disais, une vraie urgence, elle peut survivre à un appel de vérification de 30 secondes. Et une fois de plus, pas cliquer sur les liens, pas cliquer sur les pièces jointes. Donc, dès qu'on reçoit des demandes plus inattendues, ça va de soi, j'en ai déjà parlé. Mais toi, est-ce que tu as déjà vécu des biais d'autorité dans ce sens-là en cybersécurité?
Moi, je n'ai jamais vécu parce que j'ai un naturel à re-questionner qu'est-ce que les ordres qui me sont donnés. C'est en général, pour la plupart des gens, c'est là le point, ne re-questionnent pas les ordres qu'ils reçoivent qui leur apparaît d'un supérieur immédiat dans un contexte de travail, ou même la chaîne hiérarchique au complet, si le président communique. Puis même, il y a certaines personnes qui vont se sentir touchées parce que le président leur a communiqué directement. Donc, ils vont sentir avoir comme ils se sentent importants. Donc, ça vient toucher aussi à d'autres choses à l'intérieur de l'individu qui lui donne l'importance, donc va être encore plus propice à descendre sa garde pour ne pas vérifier ce qu'il en est. Mais non, moi, celui-là, ce n'est pas un avec qui j'étais en tout cas, je m'en suis pas rendu compte. Ça se peut que j'ai été en contact, mais comme je suis pas sensible à celui-là, je m'en suis pas rendu compte.
C'est quelque chose qui est très, très courant à la fois en entreprise, mais aussi personnellement, mais en tant qu'individu. Et l'autre biais dont je veux parler va avoir quand même des similitudes avec le biais d'autorité, mais c'est le biais de familiarité. Parce que l'autorité, c'est quelqu'un qui est connu, qui a un statut, mais le biais de familiarité, il joue à peu près de la même façon. Et il est puissant parce qu'encore une fois, on baisse naturellement la garde quand un message semble provenir d'une personne qu'on connaît, surtout d'une personne qu'on affectionne. Donc oui, un collègue peut-être, mais ça peut être un ami, un membre de la famille. Et pourtant, une fois de plus, un compte peut être compromis, une adresse peut être imitée, une conversation peut être reprise par un fraudeur. Et c'est le fameux « je connais cette personne, donc je fais confiance ». Oui, mais c'est encore toujours dans ma scène paranoïa. Moi-même, quand ma mère m'envoie des trucs, quand elle m'envoie des liens vers des albums photos de chez... Je vais m'assurer que c'est bien, m'assurer que cette personne connaît une information sur moi que seule ma maman est censée connaître. Ça, c'est de la scène paranoïa, clairement. Mais c'est vraiment la même chose. Pareil pour les fournisseurs. Si c'est un fournisseur, on est moins dans le biais d'autorité parce qu'il n'y a pas le lien de subordination. Mais si c'est un fournisseur qu'on connaît, le cerveau va avoir tendance à classer ça comme la catégorie, c'est connu, c'est fiable. Donc, s'il y a un changement de coordonnées bancaires, make sense, on va le faire. Mais, une fois de plus, c'est là qu'il y a ce fameux piège. C'est pas que le contexte est familier que la demande est légitime.
Ça, je l'ai vu. Ça m'a jamais été dirigé, mais c'est dans un contexte d'entreprise où il y a eu des requêtes de changement de compte de banque pour les employés de changer leur paye de compte de banque. Dans ce cas-ci, la personne aux ressources humaines reçoit ça. J'ai vu des entreprises qui, malheureusement, n'ont pas été vigilants. Donc, ils ont dit « Ah, ça semble normal ». Il faut effectuer le changement jusqu'à temps qu'ils se rendent compte qu'il y a eu fraude, donc récupération. Dans d'autres cas que j'ai vus, les personnes étaient vigilantes parce que ne réagissent pas à la requête de l'employé, mais à la requête du supérieur de l'employé. Donc, ils ont mis en place des moyens. Puis c'est ça aussi, c'est important, puis on va peut-être tous en parler vers la fin, c'est de mettre en place des mécanismes en entreprise, notamment, qui viennent contourner ou limiter les probabilités qu'on se fasse avoir. Dans ce cas-ci, c'est le fait que la requête doit venir du supérieur est un très bon chemin pour empêcher la plupart des fraudes de cette nature-là. Donc, on se préserve nous-mêmes des problèmes dans lesquels qu'on pourrait rencontrer, comme prendre un respire dans les cas d'une requête qui est urgente.
Oui, absolument. Et puis, le prochain biais que je veux parler va dans le même sens, c'est le biais de réciprocité, qui est très utile en fraude, surtout dans des approches justement plus relationnelles. Et le biais de réciprocité, c'est quand on se sent obligé de répondre positivement parce que quelqu'un nous a accordé à quelque chose, parce qu'il nous a déjà donné quelque chose, déjà donné une information, un document, une job. Tu sais, ça va être pas mal autour de ça que je donnais l'exemple, mais ça peut prendre justement la forme d'un faux recruteur qui envoie des offres d'emploi, un faux fournisseur qui envoie un document utile. Bref, c'est un peu l'idée. Et là aussi, le réflexe, c'est pas parce qu'une personne commence à être utile ou sympathique avec nous que par la suite, la demande est légitime nécessairement. Donc ça, ça défait beaucoup de nœuds dans notre esprit. Enfin, ça crée plutôt des nœuds dans notre esprit de comment ça se peut. Mais ça se peut.
Effectivement, ça, on le voit peut-être un peu plus en entreprise, j'ai l'impression, puisque les attaques actuelles permettent de vider les boîtes courriel en entreprise. Donc, on se fait attaquer une première fois et vide la boîte courriel. Et ils rattaquent une deuxième fois avec une séquence de courriels dans lesquels on est déjà. Donc, ils ont une connaissance intime de qui nous sommes parce qu'ils ont vu les communications. Et dès lors, ils sont capables de voir la relation qu'on a avec nos collègues ou avec des fournisseurs ou peu importe. Ils vont justement aller chercher exactement ce que tu mentionnes, d'aller voir s'il y a un lien de réciprocité entre deux personnes qui se communiquent, puis là, de faire jouer celui-ci pour amener la personne à réagir contre son gré, malheureusement, pour aller dans la direction du fraudeur.
Ouais, absolument. Et pour terminer avec cette famille de biais cognitifs, le dernier que je veux aborder, c'est dans le même sens, lui aussi plus perso par contre, mais c'est le biais de preuve sociale. C'est très très présent sur les réseaux sociaux. On parle de faux avis, de fausses opportunités, d'investissements frauduleux, de concours, des formations douteuses. Et le principe là aussi, c'est que je vois une publicité en ligne avec des commentaires positifs, il y a des témoignages, il y a des captures d'écran de gains, c'est dans l'esprit plus d'investissement. Et le cerveau, il se dit, s'il y a autant de gens qui ont embarqué, ça doit être vrai. Mais les fraudeurs, ils peuvent acheter de faux avis, ils peuvent créer de faux profils, simuler vraiment de l'engagement, fabriquer une impression de popularité. Donc, c'est pas parce que ça a l'air populaire que c'est une preuve de légitimité. Il faut vraiment vérifier la source, l'entreprise, le site officiel, les coordonnées, les avis externes. Mais ça joue beaucoup en disant il y a beaucoup d'avis positifs, donc ça doit être vrai, ça doit être positif. Donc, je vais recevoir l'article en question. Et pourtant, on oublie que c'est très facile d'acheter des avis aussi.
Malheureusement, oui. Puis c'est un système qui s'est aggravé dans les dernières années, notamment avec le fait que Twitter X, à l'époque, exigeait une vérification réelle par des humains avant de donner le petit crochet bleu, et maintenant, ils le vendent. Donc, ce changement de paradigme-là, c'est que tout le monde peut acheter ce qui a été pendant des années comme une preuve de légitimité de la personne qui était en arrière. Bien, on a perdu ce signal-là, mais il est resté dans la tête des gens, donc on le vit comme ça. Et comme l'autre côté, tu mentionnes au niveau des avis positifs, bien, ils ont maintenant des fermes de qui servent à remplir de commentaires positifs, justement pour amplifier et favoriser l'état d'une fraude en trompant les systèmes qui servent justement à contre-vérifier ou à permettre d'avoir une certaine forme de balance et de contrôle social pour permettre d'avoir des indicateurs qui nous aident à prendre une bonne décision. Fait que tous ces indicateurs-là sont en train de malheureusement s'effriter et c'est d'autant plus difficile de réussir à en rebâtir de nouveau.
J'aime vraiment beaucoup ton exemple par rapport aux petits icônes bleues là, de vérification. Je trouve que c'est effectivement très, très parlant et beaucoup de gens vont se faire avoir parce qu'on a la pensée et on ne s'est pas mis à jour par rapport à ça, que c'est un gage de sécurité, en tout cas d'authentification, alors que pas du tout. Au final, la personne a juste payé. Ouais, 100%. Pour notre troisième famille, de biais cognitifs, je vais aborder les biais justement qui nous font baisser la garde. Tu sais, cet exemple aurait pu vraiment rentrer dedans. Donc les biais qui nous font baisser la garde, c'est pas parce qu'on fait confiance à quelqu'un en particulier, mais parce qu'on sous-estime le risque, parce qu'il nous semble abstrait peut-être, ou parce que on est simplement fatigué. Ça va être les trois un peu catégories que je vais vouloir aborder. Le premier, c'est le biais d'optimisme. Ça, on le voit énormément chez nos experts en sécurité, en cybersécurité. C'est le fameux « moi, je me ferai jamais avoir ». Chez nos PME aussi, d'ailleurs. Je ne veux pas juste pointer les gens de TI, mais les PME aussi. Mais moi, je ne me ferai jamais avoir. C'est quand on pense que le risque, il concerne surtout les autres. Hein. Moi, je suis prudent, je connais ça, je clique jamais. Mais en réalité, le fraudeur, il n'a pas besoin de nous piéger dans une journée où on est concentré et vigilant. Hein. Il va attendre le moment où est-ce que on est pressé, fatigué, on est entre deux réunions, on est sur notre téléphone dans l'autobus, j'en sais rien moi. Et c'est un biais très fréquent. On se pense plus vigilant que la moyenne. On se dit qu'on connaît les fraudes, qu'on repère les fautes, qu'on cliquerait jamais sur un lien douteux. Et le problème, c'est que bah, les attaques modernes, elles ressemblent plus toujours aux vieux courriels mal écrits qu'on a pu recevoir. Ça, c'est plus crédible, c'est bien rédigé. Surtout avant, on avait l'indicateur de dire « Ah, c'est écrit dans un français boboche. » Fait que c'est... Ouais, mais plus aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus personnalisé aussi. Et on l'a dit, ça arrive au bon moment. Donc, je pense que tu vas en avoir à dire par rapport à ça. Mais on devrait remplacer le « je me ferai pas avoir » par « je vais vérifier pareil ». De pas prendre les choses pour acquis.
Absolument. Puis j'avais la statistique, on me l'a sorti il y a quelques semaines, c'est 78% au Canada des gens qui sont convaincus que ne se feraient pas avoir. C'est énorme.
C'est énorme. Fou.
Ça veut dire que tous ces gens-là sont des cibles très faciles parce que comme tu l'as très bien expliqué. Si on n'a pas une saine paranoïa, comme tu le mentionnes, on s'expose justement à ces situations-là parce qu'on ne se ferait pas avoir. Fait Pourquoi j'aurais pas vu? Donc, on baisse volontairement la garde sur un certain nombre de choses de cette perception. Les gens en cyber sont les pires parce qu'on se croit plus invulnérable que les autres. Nous, on connaît ça. On travaille là-dedans. Donc, non. La réalité, c'est tout à fait faux. Je serais probablement capable d'attraper n'importe qui de mes collègues parce qu'ils sont tellement faciles à gratouiller leur orgueil puis ils vont tomber dans le piège de façon quasi automatique. Mais oui, ça demande une saine paranoïa, ça demande un recul. Et c'est aussi un biais très fort, puis on le voit aussi dans le monde réel. L'autre exemple, c'est les systèmes d'alarme dans les maisons. Si on est dans un quartier où il n'y a jamais eu aucun vol, c'est très difficile de convaincre les gens qu'un système d'alarme, c'est utile. On arrive dans un quartier où il y a eu un vol récent, c'est automatique. La majorité des gens vont acheter un système d'alarme. Parce que le risque est réel, il est devant eux et il y a une potentialité d'arriver qui arrive. C'est ça qui arrive malheureusement avec les PME. C'est qu'on n'a pas eu suffisamment d'exemples publics, malheureusement. C'est un peu emmerdant de dire qu'il faut des exemples publics pour que les gens apprennent, mais oui, il va falloir que plusieurs en PME se fassent écorcher brutalement, publiquement, pour que ça soit internalisé. C'est, ah oui, c'est vrai, on peut effectivement être des cibles. Et donc, conséquemment, de prendre des mesures et d'augmenter la vigilance de ce que ça comporte.
C'est un bon point ce que tu amènes, parce que c'est vrai qu'une cyberattaque, pour beaucoup de gens, ça reste abstrait au final. On sait que ça existe, mais ça ne fait pas partie du quotidien. Alors, on va repousser justement les mises à jour, on va utiliser les mêmes mots de passe, on va cliquer un peu plus vite. Alors que, tu sais, je pense qu'il faut rendre le risque plus concret. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. C'est de dire, si ce compte est compromis, qu'est-ce que quelqu'un pourrait faire avec? Et souvent, quand on se pose cette question, on comprend mieux pourquoi le mot de passe unique, le double facteur d'authentification, pourquoi c'est important, mais c'est très abstrait quand même pour la plupart des gens aussi.
Très, très abstrait, puis tu as tout à fait raison. Avec les années, on a fait d'énormes efforts pour décomplexifier l'usage de l'informatique comme on a. C'est assez accessible. N'importe qui peut avoir un ordinateur sans être trop perdu maintenant. C'est facile. Le revers à ça, c'est que tous les signaux qu'on pouvait avoir pour déceler une fraude ont aussi été masqués et les gens sont encore plus distants par rapport à ce que c'est. Et comme c'est un écran qui nous distance un face à l'autre, les gens ont encore plus de difficultés à internaliser la potentialité de ce qui va arriver tant que ça n'arrive pas pour de vrai. Puis c'est notamment pour ça que j'utilise beaucoup d'exemples concrets pour ramener pour que les gens puissent faire le lien entre ce qui se passe en ligne avec les conséquences dans le monde réel qu'il peut y avoir, vol de compte de banque, vol d'identité, etc., tout ce qui peut être très dommageable pour la personne qui tombe dans un de ces pièges-là.
Oui, absolument. Puis le prochain biais va aller toucher à autre chose, mais qui est quand même complémentaire, c'est le biais de surcharge cognitive. Justement. Et tu sais, bah, la surcharge cognitive, c'est quoi? C'est quand notre cerveau, il est trop sollicité. On a trop de comptes à gérer, il y a trop de mots de passe, il y a trop d'applications, il y a trop de codes à 6 chiffres qui changent toutes les 30 secondes. Et à un moment donné, on veut juste que ça fonctionne. Alors on choisit la facilité, le même mot de passe, un document qui est partagé trop largement, une approbation faite trop vite, une pièce jointe ouverte sans réfléchir, sans faire de vérification. Et justement, si je prends un exemple concret, une personne doit se connecter à 10 plateformes différentes dans sa journée. Et 10, je pense que je suis gentille. Même moi, je me connecte à plus de plateformes que ça. Et pour gagner du temps, ça devient tellement facile d'utiliser justement le même mot de passe avec des petites variantes. Et on sait que c'est pas parfait, mais on se dit que on va gérer ça autrement à un autre moment donné. Et le problème, c'est qu'une seule fuite sur une plateforme moins importante, bah, peut donner accès à des comptes beaucoup plus sensibles. Et si le mot de passe est partagé, bah, on connaît la suite. Mais ça, on le voit énormément avec le double facteur d'authentification. Je sais pas si tu as quelque chose à partager par rapport à ça.
La charge cognitive est un élément très important, malheureusement trop peu étudié. Un exemple par rapport à ça, c'est que généralement en fin de journée, on est beaucoup plus épuisé, donc on est beaucoup plus propice à tomber dans des pièges en cliquant automatiquement, en faisant pas les validations, en ne prenant pas le temps nécessaire parce qu'on est déjà, on a vidé notre batterie cognitive complètement. On n'a plus d'espace à agir, puis on est las de notre journée. On est fatigué, on a hâte d'être rendu à la maison. Donc, on va être beaucoup, beaucoup moins vigilant à ce moment-là de faire ces vérifications-là qui passent. Là, puis là, l'autre facette, comme c'est que tu mentionnes, c'est la réutilisation ou trouver des stratégies pour accélérer. Effectivement, comme les autres, j'ai des stratégies aussi. Les miennes sont peut-être un peu plus robustes que la plupart des gens, mais en même temps, je suis aussi sensible à l'épuisement cognitif en fin de journée, par exemple, où j'ai passé beaucoup, beaucoup de charges, puis là, on va me poser une question, puis je suis comme dans une forme, disons, on va dire, de brouillard, d'épuisement cognitif, et là, tout me semble OK, tout me semble bien, tout me semble plus gentil. Donc, nécessairement, ma saine paranoïa a tendance à se perdre dans ce brouillard-là, à ce moment-là, et de ne pas être active et me permettre de prendre des choix plus éclairés.
Et en fait, c'est impossible de demander aux gens d'avoir une mémoire parfaite. On est humain, c'est impossible. En fait, ce qu'il faut chercher à faire, c'est de réduire la charge mentale avec de bons outils, avec des gestions de mots de passe, authentification à deux facteurs. Pas un code par texto. Puis tu sais, surtout quand il y a des comptes qui sont partagés, puis c'est toi qui reçois le texto, mais c'est même pas pour toi, puis ça gosse. Donc la cybersécurité, oui, elle doit être stricte, mais elle doit... Au-delà de ça, elle doit être facile à appliquer. Donc, ça, c'est vraiment dans les éléments à garder en tête quand, surtout dans notre domaine, on fait de la sensibilisation, de la prévention. C'est clairement dans les éléments clés pour pas surcharger et pour gagner en sécurité tout en gagnant en fonctionnalité finalement. Ensuite, vas-y, je te laisse rebondir.
Oui, c'est un peu l'objectif, c'est de réduire la friction. Un peu comme les commerçants en ligne ont réduit la friction entre la volonté et l'achat. C'est la même chose en cybersécurité. Il faut réduire la friction autant qu'on est capable. Les exemples qu'on a de modernes, c'est notamment sur les téléphones où ils déverrouillent à passer avec notre visage, avec notre empreinte, sont un exemple d'augmentation de sécurité qui réduit la friction. Donc, on est plus propice à mettre des mots de passe beaucoup plus robustes sur nos téléphones. De par le fait que notre visage est capable de déverrouiller le téléphone. Bon, certains revers à ça, mais globalement, ça a un effet très positif sur l'ensemble de la sécurité qu'on a connue dans les dernières années. Donc, toutes les innovations qui retirent de la friction, mais qui augmentent la sécurité, ne sont que des points gagnants pour tous et dans lesquels on va améliorer la situation. Avec ceux qui font le design de solutions en entreprise, n'ajoutez pas des couches, n'ajoutez pas la surcharge cognitive. Assurez-vous de la réduire, mais qui a un bénéfice en même temps, ou par le poids de l'utilisateur, par le mouvement de son utilisation normale, va être favorable à l'application de ces mesures-là.
Bien d'accord avec tout ça. Pour terminer, notre quatrième famille, déjà, c'est les biais qui nous enferment dans nos habitudes. Et bah, comme son nom l'a dit, que c'est nous enferme dans des choix qui seraient nos premiers choix, finalement. C'est des biais qui sont quand même relativement discrets, mais quand même très présents dans nos comportements numériques. Il y a d'abord le biais d'ancrage, qui lui aussi peut être transposé dans plein d'autres thématiques que la cyber, mais c'est notre tendance à rester accroché à la première information ou à une première idée. Et en cybersécurité, justement, ça se voit beaucoup avec les mots de passe. Hein, le biais d'ancrage, c'est quand je reste collé à une première version d'une idée. Exemple, si mon ancien mot de passe, c'était Soleil 2024, ben, je vais être tenté de le transformer en Soleil 2025, puis Soleil 2026, et j'ai l'impression d'avoir changé de mot de passe, mais en réalité, j'ai seulement modifié légèrement la base. Donc ça, c'est un exemple très, très complexe. Complexe, pas du tout, justement, au lapsus, très, très... voilà, j'ai perdu mon idée, très, très... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Concret, c'est ça. Je suis dyslexique aujourd'hui. Mais avec bon réflexe, c'est de pas inventer tous ces mots de passe soi-même. Hein. On peut utiliser un gestionnaire de mots de passe pour générer des mots de passe uniques. Un autre exemple concret que je peux donner est quand même toujours lié avec les mots de passe, mais c'est ce qui me vient, c'est quand une entreprise demande à ses employés de changer les mots de passe à tous les 3 mois, ben justement, il y a plusieurs personnes qui gardent la même structure. Parce qu'on a aussi la surcharge cognitive dont on a parlé un petit peu plus tôt. Et pour l'humain, c'est pratique. Pour un attaquant, c'est très prévisible aussi et c'est le fun. Mais un bon mot de passe, c'est pas un mot de passe qu'on modifie juste un petit peu. C'est un mot de passe qu'on réutilise pas du tout, en fait, et qu'on passe à autre chose complètement.
Dans les faits, c'est de ne pas avoir de mot de passe au sens où on a des technologies comme les passkeys, ouais, par exemple, qui nous retirent de cette complexité-là des mots de passe, de cette souffrance-là qu'on a d'avoir à s'en souvenir pour chacun des sites ou plusieurs sites et ainsi de suite. Donc, on a ça et ça en retire le changement, ça retire l'ensemble des problèmes associés à ça. C'est un peu plus complexe, il faut acheter la clé, il faut avoir les objets. Mais le bénéfice, il est très important. Je l'ai, par exemple, sur plusieurs sites que je l'ai déployé comme ça, parce que ça m'évite d'avoir à m'en souvenir. Et les voûtes de mots de passe modernes peuvent fonctionner avec des passkeys pour les sites, ce qui donne quand même un avantage. C'est pas parfait parce qu'on vient rassembler tout à un même endroit les passkeys, mais il demeure quand même mieux d'utiliser cette stratégie-là que d'y aller à la même structure de mot de passe. Et tout le monde le fait, là. Il ne faut pas se cacher, là. Même les experts en cyber le font. Donc, on est tous pris avec cette espèce de douleur continuelle du mot de passe. Et tant qu'on n'est pas capable de le modifier avec quelque chose, un jeton physique, mais dans la mesure où vous êtes capable, faites-le. Ça augmente votre sécurité, puis vous n'avez pas de mot de passe à retenir. Il ne faut juste pas perdre la clé.
Ah, ça pourrait être intéressant aussi d'en parler. Je ne sais pas si tu as un podcast qui en parle un peu plus. Les passkeys.
Ouais. La réponse à ça, c'est que non, j'ai pas abordé de façon efficace comment intégrer ça. Je l'ai fait à travers différents épisodes des bribes. Parce que la question des mots de passe revient souvent, la façon que je le gère, ça revient souvent, notamment le fait que sur Desjardins maintenant permettent l'usage du passkey, par exemple, ou d'avoir du SMS. Donc, il y a une panoplie de choses qui existent. Mais j'ai pas fait un épisode au complet qui explique les tenants aboutissants et les bienfaits de l'usage de cette technologie-là, qui nous protège essentiellement de la plupart des vecteurs d'attaque modernes, mais qui est un peu en dehors de l'aspect humain. Mais c'est un aspect technique qui vient justement soulager l'humain de toute cette complexité-là. On n'a plus besoin, quand on a un passkey, on n'a plus besoin de vérifier le site s'il est légitime, parce que le passkey lui-même, à l'intérieur de cet usage-là, vérifie que c'est le bon site sur lequel on se branche. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut laisser sur le pilote automatique, heureusement, et qui nous amènent dans peut-être une plus grande sérénité au niveau cyber, mais ça vaudrait la peine de faire un épisode complet sur ça, parce que je pense que les gens gagneraient à adopter davantage cette technologie.
Ah, puis il y a, comme tu dis, à la fois l'aspect technique, technologique, mais il restera toujours l'aspect humain, parce qu'il faut que les humains l'utilisent, et pour ça, il faut que ce soit bien vulgarisé et que ce soit compris pour entraîner le changement de pratique aussi, forcément.
Absolument.
Le dernier biais dont je vais vous parler, on a parlé un petit peu plus tôt du biais de réciprocité qui disait que quand quelqu'un fait un pas vers toi, t'as forcément envie de faire un pas vers lui aussi. Le biais d'engagement va un petit peu dans le même sens. mais va plus loin quand même. C'est exemple, une fraude comme parfois une demande très simple. Elle va commencer par confirmer le nom, répondre à un sondage, cliquer sur un document. Et tranquillement, la demande elle devient plus engageante, donc de fournir un numéro, se connecter à un portail, transférer de l'argent, si on imagine ça. Et comme on l'a déjà commencé l'échange, notre cerveau il a tendance à continuer et on veut rester cohérent avec le premier oui qu'on a donné. Alors que même si on a déjà commencé l'interaction, on a toujours le droit de s'arrêter, de revalider. On parlait de mot de passe. Si je transpose avec les mots de passe, le bon réflexe, c'est pas de modifier légèrement. C'est d'utiliser des mots de passe uniques, longs, générés par un gestionnaire de mots de passe, comme on a dit. Et c'est pas parce qu'on a commencé une action, c'est qu'on a ancré une habitude, qu'on est obligé de la terminer ou de poursuivre dans cette direction, finalement.
Tout à fait. Ouais. Puis cet élément-là, on le voit souvent. Ça m'a fait penser aussi qu'il y a plusieurs éléments qu'on a parlé qui sont largement utilisés par les magiciens justement pour tromper notre esprit. Donc, nous, dans un contexte d'amusement, vont nous amener comme ça. Et celui-là est particulièrement intéressant. On le voit, par exemple, avec les... je l'ai vu dernièrement avec les chiens, par exemple. On va prendre une balle, on va comme la lancer et il va y avoir cet engagement, donc cette continuité-là de gestes. Le chien va chercher la balle quand, dans les faits, elle reste dans notre main. Parce que il y a ce mouvement-là qui est ancré et tous les mammifères ont à peu près cette espèce d'anticipation dans lequel on va s'engager dans le mouvement qui est fait. Et donc, quand une fois qu'on est pris dedans, bien, on le poursuit naturellement parce qu'on ne se re-questionne pas sur où on va et pourquoi on a fait le choix qu'on a fait au début.
Et là aussi, hein, ça démontre qu'il n'y a pas un seul biais qui est utilisé, il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que le meilleur réflexe, c'est pas d'essayer d'identifier parfaitement chaque biais. C'est pas pour ça qu'on a fait ce podcast-là. C'est vraiment d'apprendre à reconnaître les signaux. Est-ce qu'on me presse en ce moment? Est-ce qu'on est en train de me faire peur? Est-ce qu'on utilise de l'autorité? Est-ce que ça tombe trop bien? Est-ce que c'est juste une occasion parfaite? Est-ce que je suis fatiguée? Ça, c'est une question qu'on, je pense, devrait se poser un petit peu plus souvent. Et si je peux partager pour s'enligner tranquillement vers la conclusion, en fait, il y a 5 réflexes de bonnes pratiques que je veux présenter comme des réflexes anti-biais, si on veut. Mais d'abord, c'est de ralentir. Quand on nous presse, ralentissons. Réflexe numéro 2, sortir du canal de communication. Si on a une demande qui arrive par courriel, on valide par un autre vecteur de communication. De ne pas cliquer, numéro 3, de ne pas cliquer, d'aller soi-même à la source. On ouvre son navigateur, on tape l'adresse officielle, on passe par l'application le plus possible. Ensuite, pour les demandes urgentes, donc réflexe numéro 4, je dirais aux gens de traiter ça comme des exceptions. Dès que ça parle d'argent, d'accès, de mot de passe, validation obligatoire, ça devrait être non négociable. Et le 5e qui est le mien, mais je vais vouloir que tu puisses en rajouter aussi, d'utiliser des outils qui réduisent la charge mentale, comme on disait. Il y en existe plein. Je sais même, on parlait beaucoup de mots de passe, mais des filtres anti-pourriel, des filtres pour signaler des courriels suspects. C'est pas mal mon top 5. Après, je vais vouloir rajouter une petite couche IA, si tu me le permets. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu ferais rajouter comme bon réflexe, bonne pratique?
C'est un peu dans la même lignée. C'est de se mettre des moyens en place pour réduire notre charge, nous aider pour atténuer ça. Le fait d'attendre 24 heures ou attendre d'avoir dormi sur quelque chose avant de prendre une décision, juste par le fait de l'épuisement cognitif, Ne pas répondre à des courriels en fin de journée, les répondre tôt le matin uniquement, par exemple, est une stratégie qui vient réduire la probabilité qu'on tombe dans un piège, qu'on ne réponde pas correctement et qu'on aille à l'avant. Donc, toujours de prendre ce temps de réflexion-là. Donc, on est toujours dans le temps long, un peu plus, de prendre le temps d'analyser, à moins que ce soit vraiment d'un danger à la vie. En général, il n'y a pas tant d'urgence que ça. C'est plutôt des cas d'exception. Et même encore là, dans certains cas, des cas d'urgence à la vie, à moins que vous soyez dans un métier qui est spécifique, qu'on sauve des vies, même si on a quelqu'un qui est proche de nous, qui est dans un danger, on n'a aucune capacité d'agir et qui pourrait changer le sort des choses. Donc, faut prendre il vaut mieux appeler justement à l'aide dans un cas qu'il y a une urgence réelle ou pas. Et de toute façon, si l'urgence n'est pas réelle, l'appel à l'aide va servir à débusquer l'élément comme ça. C'est toujours penser, puis moi, mon réflexe, c'est je peux me faire tromper. Fait que moi, je suis pas dans le 78%, je suis dans l'autre. Je sais que je peux me faire avoir, que pour peu importe la raison, manque de vigilance, fatigue, cognitif, ils ont pesé sur le bon bouton au bon moment, peu importe la raison, ça m'est arrivé, ça va m'arriver de nouveau. Le seul avantage qu'on a, c'est que quand on est capable d'être, humble par rapport à ça, c'est qu'on le détecte rapidement et on pose des actions rapidement pour corriger la situation. Parce que c'est pas grave dans la mesure où on est capable d'intervenir a posteriori. J'étais bien régulièrement à saisir mon mot de passe sur des sites qui étaient frauduleux. Et m'en étant rendu compte rapidement, j'allais modifier mon mot de passe avant qu'il vide mon compte de banque, vole mes courriels, peu importe. Fait que c'est un peu dans cette sphère-là. Fait que j'ai un peu moins structuré que toi, mais c'est plus dans le temps, respire, attendre et prendre mon temps.
Toujours. Je pense qu'on dit la même chose par rapport à ça. Et la petite couche IA que je voulais ajouter, c'est que avec justement l'intelligence artificielle, ces biais, ils deviennent encore plus faciles à exploiter parce que les messages frauduleux, ils peuvent être mieux écrits, ils peuvent être plus crédibles, plus personnalisés aussi, on l'a dit. Et on peut plus seulement se fier aux fautes d'orthographe, au côté louche d'un message. La bonne cybersécurité, c'est pas non plus, et puis on parle, toi et moi, de paranoïa, de saine paranoïa, et c'est pas de devenir paranoïaque non plus. Je pense qu'on en fait une blague, et puis c'est important d'en avoir trop que pas assez, mais c'est avant tout de se créer des petits réflexes qui nous protègent dans les moments où est-ce que notre cerveau, il est pressé, il est fatigué, il est trop confiant. Et finalement, les biais cognitifs, ce sont pas des faiblesses, ce sont vraiment, faut se dire, des mécanismes normaux du cerveau humain. Et le problème, c'est que les fraudeurs, ils les connaissent, ils les utilisent contre nous. Donc oui, solution, je suis bien d'accord, c'est pas de demander aux gens d'être parfaits, c'est de leur donner des réflexes simples pour ralentir, vérifier autrement, pas cliquer, et ainsi de suite.
Et je vais rebondir parce que tu as parlé d'intelligence artificielle à la fin. Et il y a deux éléments là-dedans que j'aimerais souligner justement. Qui sont importants, puis ça m'a ouvert à des opportunités qu'on aura peut-être l'occasion de parler sur un autre enregistrement. Le premier, c'est que l'intelligence artificielle est faite pour être séductrice, donc le contenu qui sort facilite justement de tromper les gens, de un. Et de l'autre côté, puis justement, c'est à contrario de l'intelligence artificielle, on est des humains, on est des êtres de lien. Donc, incidemment, le fait qu'on utilise la machine coupe le lien entre les humains et une façon de déceler les comportements frauduleux, c'est le lien qu'on a avec l'autre personne et qui transcende l'ensemble de ce qu'on a parlé, si on revient sur le lien, donc établir un lien ensemble, c'est sûr qu'avec toi, j'ai établi un lien avec les années comme humain, je t'ai vu dans la vraie vie, on a eu des échanges, donc j'ai une confiance spontanée qui est née de ça, donc le lien. Et quand on arrive dans la construction artificielle de liens rapides, comme dans les cas qu'on a mentionnés, ça, c'est peut-être un signal d'alarme très fort aussi que ce n'est pas un vrai lien, une vraie relation qu'on a avec une autre personne. Et donc, de se poser la question, parce qu'on est des humains, puis on l'oublie.
Quel merveilleux mot de la fin.
Merci.
Merci, c'était vraiment chouette de pouvoir aborder cette thématique qui, je pense... nourrit beaucoup les fraudeurs et d'avoir ce pas de recul pour savoir comment on réagit instinctivement, ça permet de mieux désamorcer tout ça aussi. Donc, merci de l'opportunité d'avoir parlé de ce sujet bien intéressant.
Et merci d'avoir réouvert cette opportunité-là aussi, parce que c'est suite à une rencontre dans le lancement d'un livre sur justement le fait de ralentir. Qui nous a amené à renouer avec ces enregistrements. Merci, moi, ça me fait énormément plaisir, ces échanges-là, puis ça m'a enrichi énormément.
Merci à toi, c'est vraiment gentil, ça me touche beaucoup.